intéresse dans la vie?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessoux.
On aime bien les bruits de cochon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec à la technique Éric Mainviel et Philippe Duclos, notre stagiaire, faut le dire, qui bosse très bien, Maud Sarano, Jérôme Boulet, notre assistant, et Christophe Imbert, qui réalise l'émission, je ne l'oublierai pas non plus, Albert Hook. Bon, vous savez ce que c'est, une petite humeur. Rien ne va plus à la ferme des 1000 vaches. Ah bah oui, vous savez bien. Cette usine à gaz picarde produisant de l'énergie électrique à partir des déjections de ces pauvres bêtes et accessoirement, productrice de lait. Juste pour en faire chuter les cours. Au grand dam des agriculteurs locaux d'ailleurs qui n'ont pas du tout opté pour le gigantisme. Bref, que ça aille de mal en pis, c'est amusant, ça ne m'étonne pas beaucoup. En raison d'un état sanitaire plutôt pitoyable, la mortalité des pensionnaires est quand même assez importante et pas toujours survenue dans des conditions plus limpides qu'un purin hautement concentré. Pas une semaine sans voir au moins une bestiole prendre le chemin de l'équarissage, donc de quoi ruminer sombrement sur l'amère condition bovine. Et donc des plaintes pour mauvais traitement aux animaux furent déposées par plusieurs associations. Alors, en théorie, ce sont 500 vaches qui sont parquées là à produire joyeusement du méthane. C'est ce nombre maximum que fixe l'arrêté préfectoral ayant délivré l'autorisation d'exploiter, sauf qu'à la suite des révélations d'un ancien salarié du site, les services de la préfecture dépêchés sur place ont fait leurs additions, ça tombe bien car on est dans la somme. 294 bovins excédentaires par rapport au maximum autorisé, rien que ça, une paille, même une botte de paille. Vous savez, c'est un peu façon boucher de quartier. Il y en a un peu plus, madame Chafouinard, hein, je vous le laisse, hein, voilà, oui. Laissez-le donc, monsieur l'exploitant du BTP reconverti à Druca dans l'élevage super intensif. Je ne vous apprendrai pas que les lois sont faites souvent pour être bafouées ou contournées. En somme, la ferme des 1000 vaches illustre à merveille ce que sont les lois du marché certes, mais de dupes. Alors j'espère que vous êtes plus fringant qu'un EPR de Flamanville, qui a plein de soucis, qui va nous coûter une blinde même avant d'être né, que vous avez un meilleur moral qu'un loup en France qui a intérêt à vérifier les clauses de son contrat d'assurance vie. Et donc nous avons ce sujet aujourd'hui avec nos amis de 60 millions de consommateurs, donc les aliments qui nous empoisonnent, on va vous en parler. Et puis il y aura aussi donc un clin d'œil à Michel Lys, le jardinier, mais promis, on ne vous coupera pas l'appétit.
Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
C'était Les Vaches par Marcel et son orchestre pour débuter sur France Inter, CO2 mon amour. Oui, c'est pas dans ce qu'on appelle la playlist du tout, hein, ça vous l'avez remarqué. Frédéric Noé, ingénieur en environnement, qui intervient régulièrement dans cette émission, auteur de nombreux ouvrages, le dernier qui marche très bien, Cessons de ruiner notre sol. Et Frédéric, on va décrypter donc cette actualité parce que vous avez assisté à une manifestation qui s'appelait l'élevage de ruminants, acteurs des solutions climat. Donc ça réunissait les professionnels de la viande, du lait, donc qui était réuni aussi avec des chercheurs, ça c'était drôlement intéressant. Ce milieu-là évolue, mais il faut vraiment le dire, ça évolue, hein, faut pas rester du tout sur des idées reçues loin de là. Mais bien sûr, nos éleveurs sont soumis quand même à quelques contradictions.
Oui, c'était deux jours de colloque international à Paris sous l'égide de Stéphane Le Foll qui a prononcé le discours de clôture. Oui, ils sont soumis à vraiment une évolution contradictoire. La première, c'est que on n'a jamais eu autant besoin de viande dans le monde. Et on n'en a jamais eu consommé aussi peu en France, hein, de viande et de lait. C'est-à-dire qu'on a une hausse de la démographie, on a une hausse de la démographie urbaine, ce qui fait que la demande mondiale en viande devra augmenter de 70% d'ici 2050. Donc il y a une chance pour la France. Sauf que il y a de moins en moins d'éleveurs en France. Pourquoi ? Parce que ça paye plus, ça avait payé, ça ne payent plus, mm-hmm. parce qu'ils partent en retraite, parce qu'ils font faillite. C'est la profession d'éleveur, en particulier d'éleveur laitier, qui gagne le moins en France. Mm-hmm. Une de celles qui gagne le moins, une de celles qui se suicident le plus. Et en plus de ça, on a toutes, Denis, on en a souvent parlé dans cette émission, toutes les contingences environnementales. Il y a l'azote. Il y a voilà la, toutes les pollutions et puis cette injonction climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors,
comment ça va se passer donc pour l'avenir, parce que là c'est pas simple du tout. Et donc on voit bien que d'un côté nourrir, beaucoup de personnes vont nous dire mais faut pas manger de viande, c'est pas bon pour la santé. Très bien, ok, une fois qu'on a dit ça, mais la réalité c'est que il y a une demande mondiale.
Il y a une demande mondiale qu'il faut bien satisfaire, et donc la France, toutes les analyses convergent pour dire que si l'élevage veut s'en sortir, il va lui falloir être exportateur beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui, tout en satisfaisant une demande nationale qui est de plus en plus exigeante sur le bien-être animal, mmh. sur les aspects écologiques. Donc comment produire en gros à l'herbe, parce que c'est vers ça qu'on va, tout en assurant une intensité de production qui permettrait d'aller vers l'exportation. Ça semble être la quadrature du cercle. Alors, les chercheurs qui étaient là, les représentants des élevages bovins et laitiers dans d'autres pays du monde, voilà, il y a eu un partage de vues. Et globalement, les solutions, on les a. Depuis 1990, globalement, par kilo de lait, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 5%, et par kilo de viande ont baissé de 20%. Alors certes, il y a une diminution de la production, mais il y a aussi des pratiques qui sont en train de changer. Si je résume, globalement, faut mettre les vaches au pré.
Mmh. Voilà. Ce bah oui, c'est ce que là, oui, ça paraît
tellement
oui.
évident. Sauf que, voilà, c'est mettre les vaches au pré. Des prés qu'on pulvérise avec un peu d'engrais, qu'on fauche un peu moins. Et globalement, les prés, on a souvent parlé, stockent du carbone. Mais mmh. ça va plus loin que ça. C'est planter dans les prairies des légumineuses. C'est changer un peu la ration alimentaire des vaches. En fait, c'est viser à ce que les atteindre cet objectif étrange qui est de, vous savez, les vaches sont des ruminants, faudrait qu'elles ruminent un peu moins les vaches, et donc leur faire manger un peu moins de cellulose, leur mais faire oui. manger un peu plus de protéines, de pois par exemple, ou de
non
ou
parce
de
que le CO2 qui sort par derrière et le méthane qui sort par devant, donc avec les roues, c'est bien ça,
on est bien, c'est bien ça oui,
donc c'est voilà, qu'est-ce, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, on va pas les empêcher de roter.
On peut déjà avec une prairie, manifestement on peut avaler 25 à 50% du carbone émis par un élevage. Il reste le reste. Et puis il reste surtout effectivement ce méthane qui est roté et qu'on peut rien faire, bah avec lequel on ne peut rien faire du tout. Et donc il faudra vivre avec ce carbone. Et néanmoins, il y a plein de solutions. Je passe sur les solutions techniques, il y a des solutions génétiques, il y a des solutions sur l'âge du vélage des veaux, etc. Les solutions sont là. Simplement, et c'est là où est la contradiction, c'est que l'agriculture peut diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 50%, mais en gros un niveau de production égal. Or, si elle veut s'en sortir en France,
il faudra davantage de production.
Ouais, et là arrive.
Zorro
n'est pas là. Arrive deux choses. Un, le changement climatique qui va obliger à avoir, peut-être à hybrider nos races actuelles, nos races de vaches, avec des races méditerranéennes, voire nord-africaines, plus résistantes, donc dont le régime alimentaire, je vous passe les détails, fera qu'elles émettront moins. Ou alors certains disent, même avec un léger sourire, oubliez les vaches et faites du kangourou et de l'autruche qui bien sont sûr. Plus adaptées. Mmh. Et puis c'est le marché du carbone.
Ouais, enfin dans le Cantal, si vous voulez le kangourou avec une cloche, moi je le sens moyen, mais bon.
C'est vrai.
Ah bah oui.
Mais en même temps, il saute et il abîme pas la pâture.
Alors c'est exact. Ouais, faut voir.
Voilà. Puis sinon, il y a un objectif steak et lait à zéro carbone, c'est faire de la compensation carbone sur le marché du carbone. Enfin bref.
Non, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même des possibles. Voilà,
les possibles sont là. L'agriculture peut largement diminuer l'élevage, en particulier ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'essentiel, avec un partenariat assez étonnant. On parlait de science participative l'autre jour. Mmh. Un partenariat réel entre la science et les agriculteurs eux-mêmes.
Merci, cher Frédéric Danlé, pour ce décryptage d'actualité. Ces aliments qui nous empoisonnent. Je vais me tourner maintenant vers Adeline Trégouette parce que c'est notre dossier de cette semaine, rédactrice en chef déléguée de 60 millions de consommateurs. Alors on sait que depuis 1950, la production de substances chimiques a connu quand même une augmentation sans précédent. On est passé de 1 million de tonnes à 250 millions de tonnes par an, donc pesticides, additifs, antibiotiques. Leur utilisation massive par le secteur agroalimentaire est donc suspectée de perturber nos hormones, les fameux perturbateurs endocriniens, et puis de fabriquer plein de maladies pétillantes et joyeuses. À cela, les industriels et lobby de tout poil vous rétorquent à l'envi, bah oui, mais notre alimentation n'a jamais été aussi sûre et contrôlée, c'est assez vrai. Ceux qui osent remettre en cause donc ce dogme sont directement accusés d'être des partisans de la théorie du complot, des passéistes, etc. Bon, alors c'est vrai que Il faut être assez clair, aussi bien la rédaction de 60 millions que dans CO2. Personne ne souhaite revenir à des temps moyenâgeux. Alors moi, j'ai même découvert qu'il y avait des charcutiers, bon, indélicats bien sûr, qui camouflaient du rat haché dans leur pâté en croûte, Adeline Trégouet. C'était quelque chose quand même.
Enfin, oui, c'était
un recyclage comme un autre de protéines, remarquez, mais bon.
Effectivement, et donc les fraudes, elles ont existé depuis toujours, depuis le Moyen-Âge. Et ce qu'on nous avons voulu montrer dans ce hors-série, c'est pas les nouvelles fraudes, mais les nouvelles pratiques et cette maladie des temps modernes qui consiste à saupoudrer un peu partout des substances indésirables, des substances toxiques. Mmh. Et c'est donc en fait un message que nous voulons faire passer dans ce hors-série, ces aliments qui nous empoisonnent, c'est que ces aliments poisons, ils ne sont pas une fatalité. On a la possibilité d'agir et de reprendre le pouvoir sur nos assiettes.
Et ben voilà, c'est ce que l'on va essayer de faire dans cet après-midi. Et je vous propose, dans notre assiette sonore, d'écouter Isia, voici la vague. Amoureuse, elle a fait une chanson, ça s'appelle La Vague, donc c'était Isia sur France Inter. La Vague, ça nous amène évidemment au sel, presque. On va en parler tout à l'heure du sel. On va rester sur le domaine des vaches avec donc les produits laitiers, amis ou ennemis, dans ce numéro de 60 millions de consommateurs, chère Adeline Trégouet.
Oui, alors effectivement, il y a une polémique, hein, véritablement, sur les produits laitiers, puisqu'il y a un courant de pensée très très puissant en ce moment qui dit que ces produits laitiers, non seulement ils ne sont pas indispensables, mais ils nous font du mal. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait les recherches ne sont pas suffisamment avancées pour trancher, mais en revanche en France c'est vrai, il y a un véritable matraquage pour nous dire de manger énormément de produits laitiers, de boire du lait tous les jours, alors qu'il existe beaucoup d'autres sources de calcium très intéressantes.
Docteur Laurent Chevalier, vous êtes avec nous et intervenant assez régulièrement dans cette émission. Bonjour Laurent Chevalier.
Bonjour.
Eh ben Laurent, donc vous avez écrit le livre Antitoxique. Vous venez de sortir aussi Moins de médicaments, plus de plantes, et je tiens à dire que vous serez dans l'émission quotidienne que je vais faire cet été de 14h à 16h. Je sais plus quand, ça doit être le 7 ou 8 juillet. Enfin, c'est vous qui avez la date en tête. Je sais plus, d'accord. Là, je mélange un peu tout. Bon, et en ce qui concerne donc les produits laitiers, parce qu'on dit très souvent que l'intérêt est dans le calcium.
Alors, écoutez, pour le lait, je pense qu'il y a effectivement des effets de mode qui fait qu'il y a une espèce de rejet actuellement du lait à cause de la lactase. à cause du lactose qui n'est pas toujours bien toléré. Il y a une propagande effectivement extrêmement forte par rapport aux produits laitiers. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Adeline Trégouet. Puis je voudrais, j'en profite pour souligner le vrai travail d'investigation qui est fait pour dans ce dossier de 60 millions de consommateurs, qui est vraiment très très bien fait. Je crois que l'intérêt majeur sur le plan médical et nutritionnel du lait, ce sont avant tout les protéines de bonne valeur biologique que l'on va trouver dans les produits laitiers. Ensuite, on a des vitamines du groupe B dont on a besoin, notamment pour le cerveau, pour que l'organisme fonctionne bien. Et enfin, le calcium. Donc le calcium, on peut avoir d'autres sources, tout simplement parfois par certaines eaux minéralisées. Et puis, il ne faut pas oublier que pour fixer le calcium dans l'organisme, il y a deux aspects qui sont tout à fait fondamentaux sur le plan nutritionnel. D'une part, un apport suffisant en vitamine K. Cette vitamine K, on va la trouver dans les végétaux, on va la trouver notamment dans les choux, on va la trouver dans les épinards aussi. Donc cette vitamine K est tout à fait essentielle et ce sont des produits qui étaient beaucoup consommés autrefois. Et en plus, le deuxième aspect, c'est qu'il faut limiter les apports en sel, puisqu'on sait qu'une consommation excessive de sel va entraîner une fuite calcique. Donc finalement, le calcium du lait, oui, bien sûr, on a besoin de calcium, mais l'intérêt principal, c'est certainement les protéines et les vitamines du groupe B.
Voilà, histoire de recaler un tout petit peu les choses. Le sel, justement, là aussi, un article, un tueur silencieux, Adeline Trégouet.
Oui, alors sur juste, je voudrais dire quelque chose aux éditeurs de CO2 Mon Amour, parce que je crois qu'ils seront sensibles à cette information. Là, est-ce que vous savez que la soupe aux orties contient 4 fois plus de calcium qu'un verre de vache, Denis?
Très intéressant.
Un verre de lait de vache, pardon.
Je connaissais les vertus de façon de la soupe aux orties, ça, j'en fais même d'ailleurs, mais je ne savais pas que c'était ça. Ah oui, non, pas du tout, d'accord.
Ça serait intéressant de réhabiliter les orties parce que c'est une nourriture vraiment très accessible.
Voilà, bon, donc cultivez les orties sur votre balcon et ou en tout cas regardez-les d'un autre œil. Et puis si vous souhaitez avoir des orties, on se le disait avec Frédéric Noé, vous avez un truc...
Faut pisser,
hein, c'est ça, c'est de l'azote, donc ça, ils aiment beaucoup les orties.
Donc, la soupe aux orties, on recycle notre pipi, on fait une centrale d'épuration.
Bah c'est ça.
C'est bien, non?
C'était très bien, c'était exactement ça. En ce qui concerne le sel, on a un petit peu dévié, oui, mais c'est pas grave.
Oui, le sel, effectivement, bah, ça reste un problème. Les Français ont compris le message qu'il fallait manger moins salé. Donc le problème, c'est pas vraiment le fait d'avoir la main lourde avec leur salière. Le problème reste les sels ajoutés par les fabricants. Et le sel, en fait, ça demeure un formidable exhausteur de goût bon marché pour l'industrie, donc elle en ajoute, elle surdose en quantité pour masquer le manque de goût, la viande de mauvaise qualité, oui, les aliments insipides, etc.
Laurent Chevalier, docteur, donc vous allez même plus loin, parce que là on dit exhausteur de goût, vous dites carrément autre chose.
C'est le cache-misère de l'industrie agroalimentaire, certainement, ouais, comme vient de le dire un petit peu Adeline. Donc je crois que c'est cette problématique, effectivement, du sel ajouté partout. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il y a quand même des campagnes de prévention par rapport au sel, et que ces campagnes de prévention, finalement, elles marchent, puisqu'on voit une diminution de la consommation de sel d'une manière générale en France, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y a quelque chose de très simple aussi pour éviter de prendre du sel, en tout cas dans les aliments, c'est bien entendu de mettre des épices, mais il y a ce qu'on appelle aussi le gomasio. Et alors le gomasio, c'est quoi? C'est des graines de sésame qui sont grillées, qui sont broyées. On rajoute que 5% de sel et en fait, ça donne un goût tout à fait agréable et salé aux aliments. Donc, inutile de rajouter du sel et de faire très attention à tous ces acharnés de la salière qui en rajoutent de façon excessive. En plus, effectivement, le problème numéro un du sel en France, c'est quand même le sel qui est ajouté à tous les produits transformés, effectivement parce qu'ils sont fades, et comme le glutamate, etc. Donc c'est des produits dont l'industrie malheureusement abuse.
Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
Ça va pas?
J'ai pas faim.
Essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Alors, prends de la moutarde, prends des cornichons, hein, allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail?
Oh non.
Bah moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Ah ouais.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Denis Chessou sur France Inter.
C'est pas mal ça, docteur, hein, comme jingle, Laurent Chabat.
Absolument. Ça vous... sympathique et très judicieux.
Voilà, on va parler du sucre, donc Adeline Tréguier, là aussi. Est-il une drogue, ce fameux sucre? Et là aussi, ben, nos chers puissants agroalimentaires ne se gênent pas et ont la main peut-être aussi un petit peu lourde.
Oui, alors des recherches, effectivement, ont montré aux États-Unis qu'il y avait une stratégie très agressive du lobby du sucre pour nous rendre accros à ce goût sucré. Et comme pour le sel, en fait, il y a beaucoup trop de sucre partout, y compris dans les boîtes de conserve, dans les petits pois, dans les boîtes de maïs, bien sûr aussi dans les gâteaux, les sodas, mais aussi dans les jus de fruits.
J'ai remarqué aussi là dans votre dossier, vous disiez qu'il y avait des teneurs plus élevées outre-mer qu'en métropole. Et c'est vrai qu'on a un taux d'obésité plus important. Hein, faut...
Oui, parce que de fait, le sucre ajouté était ajouté encore en plus grande quantité outre-mer. Et les industriels se défendaient en disant que ça correspondait au goût des populations.
Bon, voyons. Oui, c'est ça. Non, mais c'était ça oui. L'argument oui. Ah oui, c'est bien ça. Laurent Chevalier, sur le sucre.
Oui. Écoutez, c'est exactement, dans l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du sucre pour adoucir, on rajoute du gras pour rendre les produits plus onctueux, et on rajoute du sel pour que ça soit plus sapide. Donc vous avez un cocktail, et là-dessus, on va vous rajouter des additifs, des colorants, des conservateurs, etc. C'est, vous savez, c'est assez hallucinant. Tout à l'heure, vous avez dit que l'alimentation n'avait jamais été aussi sûre. C'est vrai sur le plan uniquement microbiologique.
C'est ça, c'est microbiologique, j'aurais dû le préciser.
On a ajouté beaucoup de chimie, et cette chimie, on connaît insuffisamment les impacts sur la santé. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. En ce qui concerne le sucre, il y a deux aspects. D'abord, la consommation de ces sodas, de cet apport massif et soudain en fructose industrielle, dérègle tout au niveau du métabolisme. L'organisme n'est pas fait pour cela. Et le fructose que l'on va trouver de manière industrielle et massive n'a rien à voir avec le fructose des fruits, puisque le fruit, on va le mâcher, et il va être assimilé progressivement, et les concentrations ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite, concernant le sucre, il y a de véritables addictions qui apparaissent pour le sucre, et là, les neurosciences nous ont beaucoup aidés pour comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau cérébral, on a une substance qui s'appelle la dopamine qui est sécrétée et qui est, je dirais, un peu le neurotransmetteur du plaisir. Et plus on va consommer du sucre, moins cette dopamine va être efficace. Exactement, ce sont les récepteurs à la dopamine qui sont pas efficaces. Donc du coup, on va manger plus pour essayer d'avoir le même degré de satisfaction et on va avoir des pulsions alimentaires. Donc on a un véritable phénomène addictif qui se met en place. Et c'est tout à fait problématique. Donc le sucre appelle le sucre, ça c'est, je dirais, le bon sens populaire. Mais maintenant, les neurosciences nous expliquent. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une des méthodes que l'on va employer pour les personnes qui prennent du poids. Je vous rappelle qu'on a quand même plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde qui sont en surpoids et on prévoit 3,3 milliards en partie.
Il y a à peu près 1 milliard en face, et 1 milliard en face qui n'arrive pas à manger à sa faim. C'est ça qui est bien dans nos sociétés.
Exactement, exactement. Et donc on a vraiment, et en plus, des gens, on peut avoir des gens qui sont en surpoids mais qui sont en même temps dénutris, donc ils sont mal nourris, donc ça pose des problèmes. Mmh. Donc on a un phénomène addictif et cette addiction, effectivement, tout est fait pour l'entretenir, pour que vous mangiez toujours plus. Et alors, vous me direz peut-être et que penser des édulcorants à la place du sucre? Eh bien là aussi on voit un peu la forfaiture d'une manière générale, puisque on vous dit pas de manger mieux et moins, on vous dit on va vous mettre des produits moins caloriques et vous pouvez continuer à vous empiffrer. Or, en fait, ces édulcorants, pour beaucoup d'entre eux, eh bien on a beaucoup d'interrogations, et ce qui est absolument stupéfiant, c'est que d'une manière, un certain nombre de ces édulcorants, l'Europe balaye d'un revers de main les études qui dérangent, en disant non, on n'en tient pas compte. Donc on leur demande quelle méthodologie vous utilisez pour les analyser, on vous répond pas, ce sont des arguments d'autorité. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, les consommateurs européens sont insuffisamment protégés.
Bien, merci beaucoup. Et ça, on va y revenir aussi sur le fait que nous ne soyons pas forcément aussi bien protégés qu'on le pense. On va s'intéresser aux graisses maintenant avec Adeline Tréguet et puis aussi avec Elisabeth Borédon qui va nous rejoindre dans quelques instants. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces fameux... Parce que là, il y a une grande famille, hein, des graisses.
Oui, alors les graisses, en fait, il faut quand même pas les diaboliser. On en a besoin. Problème, c'est plus...
Une fois de plus, hein, si vous voulez, lorsque vous trouvez par exemple du sucre dans les féculents, dans les céréales complètes, enfin, c'est voilà,
voilà,
y a,
c'est
y a pas
du
problème,
bon
bien
sucre.
Sûr. Oui, oui.
C'est toute la question de l'équilibre entre les différentes graisses. On a beaucoup trop, d'une manière générale, on mange beaucoup trop de graisses saturées. Et en revanche, on a un fort déséquilibre, pas assez donc d'acides gras insaturés et notamment En oméga 3 et en oméga 6, il y a un fort déséquilibre.
Et alors, lorsque l'on vous met 100 huiles de palme industrielle, on se dit, ah, c'est formidable, mais à côté de ça?
Alors attention, parce qu'une mauvaise huile peut en chasser une autre. Et effectivement, derrière le 100 huiles de palme, il y a souvent de l'huile de copra, de l'huile de coco. Et il faut savoir que les teneurs en graisse saturée sont donc deux fois plus concentrées dans ces huiles-là. Donc c'est à éviter, il faut vraiment regarder les étiquettes.
Alors voilà, et nous on va regarder Elisabeth Borédon qui est à Toulouse, ingénieure chimiste, professeure à l'université et ancienne directrice du laboratoire de chimie agro-industrielle de l'INRA, associée à l'Institut Polytechnique de Toulouse. Vous avez été une des premières d'ailleurs aussi à être madame chimie verte, on va le dire, en Europe. Mais là, Elisabeth Borédon, bonjour à vous d'abord.
Oui, bonjour Denis.
Parlons effectivement de ces graisses. Comment on va distinguer une graisse riche en acides gras saturés?
Alors uniquement en regardant la consistance à température ambiante. En fait, si vous avez votre corps gras qui est plutôt pâteux et un peu solide, on est pratiquement certain qu'il est très riche en acides gras saturés. C'est le cas du beurre, de toutes les graisses animales, saindoux, par exemple, les margarines aussi, sont des corps gras très riches en acides gras saturés, majoritairement en acides gras saturés. Par contre, ils sont plus stables à l'air et à la lumière et peu sensibles donc au rancissement, au phénomène d'oxydation. Et à l'inverse, si vous avez un corps gras qui est plutôt à température ambiante et liquide, on sait qu'il est plutôt avec des acides gras mono ou polyinsaturés.
Alors là, ça fait partie de les huiles d'olive, le colza, les arachides, l'huile de noisette en fait partie ou...
Voilà, alors les acides gras, donc il y a des acides gras insaturés, il y a les monoinsaturés, bon, donc avec une seule double liaison, ça c'est pour les
chimistes,
les scientifiques. Ouais, ouais. Les acides gras polyinsaturés, donc plus on augmente le nombre de double liaisons, donc avec 2-3 double liaisons éventuellement, donc on va dire que ce sont des acides gras qui sont, on va dire, meilleurs pour la santé, certains sont même qualifiés d'essentiels, on y reviendra, et par contre ils sont moins stables à la chaleur et à l'oxydation, donc à la lumière.
Que l'on comprenne bien, Elisabeth Borédon, c'est-à-dire que globalement, le beurre, le saindoux, la margarine, c'est pas forcément très bon pour la santé, même si ça contient de la vitamine A, faut pas l'oublier, donc ça c'est quand même extrêmement important.
Pour le beurre, oui, en particulier, tout à fait, éducation même pour le beurre. Hein. Enfin, et en plus, ils sont, disons, si on reprend le cas du beurre, si vous faites chauffer le beurre, il a une température de stabilité qui n'est pas très très élevée. Donc il est déconseillé de cuisiner avec le beurre, sinon très rapidement, vous avez le beurre d'abord qui noircit, on le voit bien. Et donc,
c'est pas bon.
En fait, va se traduire par la production d'acroléine,
je vous fais confiance.
Qui est un produit irritant et plutôt toxique. Donc le beurre, en fait, n'est pas très très stable à température, même s'il est riche en acides gras saturés, et ceci uniquement lié à sa richesse en protéines, en lactose.
Et alors dites-moi, l'huile de noix, de soja, de pépins de raisin, et même la graisse de canard, hein, ça a des vertus tout ça, là?
Oui, ça a des vertus tout à fait, puisqu'en fait, là on est plutôt dans le cas des acides gras polyinsaturés, et même on a donc des corps gras qui sont riches en acides gras essentiels, qui sont des acides gras non synthétisés par l'organisme. Et essentiels, qu'on devrait dire indispensables, donc il faut les apporter par les alimentations, et on les retrouve effectivement dans les huiles végétales, dont les acides les huiles de noix, les huiles de colza, soja aussi, et on retrouve aussi dans les poissons gras, comme le saumon, le thon, on peut retrouver ces acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, et en fait, l'organisme ensuite, à partir de certaines acides gras qui sont présents dans ces huiles ou ces graisses animales, ensuite va métaboliser lui-même d'autres acides gras de même famille. On va parler de la famille des oméga 3 et famille des oméga 6.
Et Christophe Imbert, mon réalisateur, qui s'intéresse à cela et qui a 150 grammes à perdre, me disait, est-ce que en fait le beurre, par rapport au beurre allégé, est-ce que le beurre est meilleur quand il n'est pas allégé pour la santé? Alors c'est peut-être Laurent Chevalier qui peut répondre. Tiens, Laurent Chevalier, qu'est-ce qui peut être bon là?
Le beurre, si vous voulez, on rajoute d'autres choses qui sont modérément intéressantes de toute façon. Moi, je pense que un des problèmes des acides gras maintenant, et que l'on trouve dans tous ces produits, c'est quand même les polluants qui sont dits lipophiles. C'est-à-dire qu'on a maintenant, en plus de certaines mauvaises graisses et l'excès d'apport en acides gras saturés, on a en plus des polluants. Les polluants vont ensuite être ingérés par l'organisme. On a des phénomènes dits de bioaccumulation par rapport à ça. Donc on a une double problématique, par exemple par rapport au saindoux, pas que les acides gras saturés, mais aussi ces polluants lipophiles.
Mais alors, ce sont des polluants autorisés.
sont des polluants que l'on a, par exemple, comme les dioxines, comme les PCB. Ils sont pas forcément autorisés. Mais ça pose des problèmes pour la santé.
Ok.
Et persistants, ils sont persistants.
Nous allons poursuivre ce voyage. Et puis, je vous l'ai dit aussi, on va s'offrir quand même une jolie petite page de nature dans quelques instants avec Michel Lys, qui nous a quittés, donc jardinier de son état pendant très longtemps, sur France Inter. Mais je vous propose d'abord d'écouter sur France Inter, C'est où de mon amour, Césaria Evora.
Zapę mi nie krycie, skutam purdęż jest niedo i marzyn do sudinia wida, krew magła na popy, pan konfesa bez niamu. Zapę mi nie kryczył, skutam purdęż jest niedo i marzyn do sudinia wida, krema głana popyj, pan konfesa bez niamo, jest bo uci nie dimy, jest bo suryzy prami. Falam si bokaj ke si, pa mainga krepče. Es bo učinje ime, es bo suvize pa mi. Falam si bokaj ke si, pa mainga krepče. Katem palavra pa flavo. Nesse pobre verso sem fama, mancrebo ma um tamabu, mancrebo ma um tamabu, com toda força de minha alma, ai bom sorriso sem custa, é mais que só minha ser, senta comigo tudo tá, só bom nesse mundo.
Sentimento, c'était Césaria Evora. Cette voix, vous la connaissez.
Cette lumière de Saint-Onge est tellement unique que les grands peintres du XVIIe hollandais envoyaient leurs élèves impérativement en Saint-Onge pour peindre les ciels de Saint-Onge tellement la lumière était belle.
Ah d'accord, donc ils faisaient leur classe de lumière ici.
Exactement, ouais. Comme d'ailleurs Courbet et Corot là, au siècle dernier, enfin, au XIXe siècle.
Oui, parce que Courbet a passé quand même quelques temps ici.
Cinq ans.
Notre page de nature, on s'en serait bien passé parce que c'est un hommage donc à Michel Lys pour celles et ceux qui l'ont entendu pendant des années. Alors France Info beaucoup, France Inter aussi. Bah Michel nous a quitté, donc c'était cette semaine et donc je vais vous proposer de le retrouver dans son jardin de Saint-Onge. Moi j'ai eu une chance inouïe, j'ai eu trois professeurs de plantes. Ma tante Marie qui est morte à 104 ans, comme elle le disait très très bien, le jour où je décéderai, ce sera pas la faute à mes nourrices, très bien. Elle avait l'humour. Jean-Marie Pelt que vous connaissez un petit peu et Michel Lys. Parce que j'ai eu cette chance d'être avec lui pendant 9 ans au micro le week-end, le matin. Michel était né dans une gare dont son grand-père était le chef à Pamproux, nous sommes dans les Deux-Sèvres. Et puis, évidemment, il a popularisé ce jardinage. Alain Baraton a repris très bellement donc, sa succession. Michel était à Sainte, en Charente-Maritime, au pays donc, des Santons. Alors, vous imaginez, on a quitté la mer, le marais. On s'approche du vignoble et là, on est dans son jardin, une très grande partie de sa vie. C'était au printemps et jusqu'à la fin, ce jardin était ouvert à la vie avec ce printemps qui était naissant.
Vous savez que les pierres, les vieilles pierres des chapelles saint-ongeaises sont des pierres jardins, car naît une sorte de lichen doré et que lorsque le soleil se couche le soir, vous avez ce lichen doré qui s'enflamme. On a l'impression que chaque pierre de nos chapelles est un petit jardin.
Alors si on se retourne, on a cette Charente donc qui baigne. J'allais dire qui baigne votre maison. Enfin peut-être pas, parce que si elle baigne votre maison, c'est que ça ne va pas forcément
très bien. Oh, la Charente, c'est un grand Amazone.
Oui.
Quelquefois, elle se fâche un peu, c'est la Charente charmeuse. Mais pour autant, de temps en temps, elle nous crée des inondations. Oui. Mais des inondations qui sont lentes, et des inondations lentes à monter et lentes à descendre. Ce qui veut dire que c'est une rivière humaniste.
C'est ça. Donc elle prend son temps.
Bon, elle prend son temps.
C'est un peu à l'esprit.
Mais François Ier disait d'ailleurs que c'était le plus beau ruisseau de son royaume. Et François Ier est né à Cognac. Il parlait en connaissance de cause.
Alors Michel, nous sommes dans votre jardin pour fêter l'arrivée du printemps. Qu'est-ce que l'on voit là? Qu'est-ce qui est déjà parti ici?
Écoutez, marquez un petit moment de silence. Vous entendrez les premiers bourgeons craquer. Parce que le printemps, c'est une série de bruits, une série de musiques avec les oiseaux, et surtout cette terre qui se réveille, ces petites giboulées qui tombent, et véritablement, le printemps, c'est le jardin qui se réveille. Et puis ici, dans ce jardin, j'ai voulu construire un jardin autour d'une végétation très diversifiée. Alors vous avez ici l'arbre qui est le plus vieux du monde, qui est cette sorte de petit sapin que vous voyez là. C'est un Volonia nobilis. Il arrive d'une vallée australienne, c'est un arbre fossile qui a été redécouvert il y a une trentaine d'années. On ne croyait pas qu'il y en avait des vivants.
Parce que c'est quand même un jardin expérimental.
Oui, dire ici, alors ce Volonia nobilis, on l'a planté ici parce que les gens du muséum de Sydney ont voulu absolument en faire profiter la planète entière. D'ailleurs, c'est un gros problème de savoir que la biodiversité naîtra du travail fait par les savants des muséums plus que par les commerçants. Car c'est important de savoir que la biodiversité, c'est maintenir toutes les espèces en vie. Et je voudrais vous signaler d'ailleurs à ce propos que le travail que fait le Conservatoire botanique de Brest est un travail remarquable. Et cette année, ils ont décidé de remettre dans leur milieu naturel une trentaine d'espèces dans l'île Maurice. Car il y a eu beaucoup de destruction à cause du tourisme, à cause des tempêtes, etc. Ils vont réinstaller des plantes après les avoir travaillées pendant des années dans leur serre à Brest. Et je trouve que c'est un truc formidable parce que là, on va maintenir une formidable biodiversité. D'ailleurs, au jardin Balramé du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, on a cultivé là-bas des Sophora toromiro. Ça ne vous dit rien à vous, mais c'est l'arbre de l'île de Pâques. Et cet arbre, il a été cultivé là-bas. Il va être réintroduit, grâce à nos bons maîtres, le professeur Monnier, réintroduit dans l'île de Pâques, aux côtés des grandes statues de pierre. Ce qui fait qu'on retrouvera un végétal en même temps que la pierre. Mais au point de vue arbre, ici, je pense que on peut dire sans crainte que la rainette grise de Saint-Onge, celle que l'Acatigny, au XVIIe siècle, qui était un Charentais aussi d'ailleurs, il est né à Chabanais, appelé la belle de beauté. Une petite rainette qui mûrit au milieu de l'automne, qui a une peau grise, légère, qui a un goût.
Alors, quelles sont les plantes là qui vont partir d'un seul coup?
La première plante qui part dans un jardin, c'est le forsythia. C'est un arbuste qui fleurit jaune au printemps et qui donne le signal du départ des travaux du jardinage. Dès que le forsythia est en fleur, tout le monde reprend espoir.
Alors, cher Michel Lys, qu'est-ce qui à la fois vous plaît dans l'environnement au sens large aujourd'hui, puis aussi ce qui peut vous agacer?
Écoutez, la Saintonge, c'est un pays qui n'est pas tout à fait mauvais, puisqu'il y a des huîtres, il y a du melon, il y a du cognac, il y a du pinot.
Oui.
Mais on ne peut pas dire que c'est un pays très mauvais. Mais par contre, c'est un pays qui fait des écarts avec l'écologie de temps en temps. Et je peux vous dire que je grogne beaucoup, parce que quand on interdit un produit phytosanitaire à Paris, les coopératives qui ont encore des stocks mettent des mois, parfois des années, à épuiser leur stock avant de respecter l'interdiction. Ce qui fait que beaucoup de nos viticulteurs charentais, qui sont des gens qui traitaient autrefois avec des produits très toxiques, eh bien aujourd'hui, même les sarbans de vigne sont imbibés de ces produits toxiques. Il faut surtout, dit-on, ne pas faire de grillade avec des sarbans de vigne. Et Dieu sait si c'est bon une grillade avec des sarbans de vigne.
Michel, vous êtes aussi parmi les premiers à avoir poussé vraiment des coups de gueule sur les pesticides. Je me souviens très bien, on parlait de la bouillie bordelaise, ça c'est autre chose.
Ah non, mais la bouillie bordelaise est reconnue par la charte des biologiques.
Voilà, bon, donc le cuivre, etc.
Oui.
Mais sur les pesticides aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que c'est un des problèmes numéro un quand même en France aujourd'hui d'un point de vue environnemental?
Je crois que c'est un des problèmes numéro un parce que les pesticides sont des produits qui aujourd'hui sont des molécules qui restent dans la plante, qui restent dans tout ce qu'elles ont traité, ce qui veut dire qu'on les retrouve des dizaines et des dizaines d'années après. Et c'est là le problème. La bouillie bordelaise ou un autre produit, du soufre par exemple, ça disparaît avec le temps et très peu de temps. Mais par contre, les pesticides, véritablement, ce sont des poisons à long terme.
Michel, vous vous êtes intéressé au jardinage, vous avez commencé donc comme journaliste, vous avez...
J'ai voyagé dans le monde entier.
Voilà, absolument.
Maintenant, je fais le tour de mon jardin.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que comment, à travers ce jardin, vous arrivez encore, je dirais, à toucher à l'universel?
Ben parce que je peux vous dire que la France devient de plus en plus un jardin d'acclimatation. Vous revenez de l'île de Léron, les mimosas sont australiens.
Ouais.
Ce camélia qui est derrière vous, ouais, il vient du Japon. Ce lilas vient de Perse. Vous avez plein de végétaux qui viennent d'ailleurs et qui vous racontent le monde. Toutes les plantes viennent d'ailleurs, elles s'habituent parfaitement chez nous. Vous voyez que c'est bien en France d'accepter les immigrations.
Hein. Oui, oui. Alors Michel, il y a quelque chose aussi qui doit vous faire râler. On sait que l'agriculteur, que le paysan de tout temps récupérait une partie de sa récolte pour pouvoir la réensemencer. Bon, et puis là, il y a quand même une petite croix.
Les OGM, oui.
Oui, alors il y a d'un côté les OGM, puis simplement aussi les graines qui maintenant sont quasiment toutes brevetées. L'agriculteur ne peut plus, sauf moyennant finance, de nouveau réensemencer sa propre collection, on va dire, de graines.
Alors je vous demande simplement d'aller chez votre grainetier, demandez-lui du nombril de bonne sœur, demandez-lui du petit arbé, demandez-lui du Saint-Sacrement. Il ne connaît plus parce que c'était des haricots qui autrefois étaient reconnus comme d'excellents haricots. Et aujourd'hui, on a normalisé tout ça. Il faut qu'ils figurent sur un catalogue officiel pour pouvoir être commercialisés. Alors on a le lingot du Nord, on a le haricot de Soissons. Même le petit arbé qui nous fait de si bon cassoulet n'est plus commercialisé.
Comment on peut arriver de nouveau à relier l'homme à la nature? C'est toujours été votre boulot, en fait, vous, Michel. Donc, on est une société technicienne qui nous a apporté beaucoup de bien-être aussi.
Oui, c'est vrai qu'il faut baigner le progrès, c'est sûr. Le jardinier, je dis toujours au jardinier, quand vous bêchez votre terre, vous donnez de l'amour à la terre.
Ouais.
Et donner de l'amour, c'est déjà un geste pas technique, c'est un geste d'amour. Et c'est ça qui est important. Considérez une plante, demandez-lui ce qu'elle vous raconte comme existence. C'est ça qui est formidable. Une plante va vous raconter sa vie, va vous raconter son pays.
Oui. Vous avez dit qu'il faut donner de l'amour à la terre. Donc ça veut dire qu'il faut partir du sol une fois de plus.
Et ben,
ça, on s'en a un peu oublié. Donc là, au printemps, il faut de nouveau travailler, avant tout, il faut travailler le sol.
Les Romains disaient, avril, c'est le moment où la terre s'ouvre. Ce qui veut dire que c'est là où il faut nourrir le sol pour qu'à son tour, il nourrisse la plante. Alors, fini les engrais chimiques qui ne bougent pas dans les terres sèches, fini uniquement des engrais organiques qui favorise des transformations de la faune du sol pour justement permettre aux plantes de mieux pousser. Et vous savez, les vers de terre, ce sont les meilleurs auxiliaires du jardinier.
Oui.
Et il y en a qui s'évertuent à mettre des produits chimiques dans leur sol pour justement éliminer les vers de terre. C'est dommage.
Les clés de base pour un jardinier qui va se lancer là au printemps, qu'est-ce que c'est?
C'est observer et être patient. Vivre d'incertitude, c'est-à-dire tout essayer. Et puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, on l'abandonne.
Oui.
Mais c'est observer, être patient, car la patience est la première vertu du jardinier, car la nature ne s'est pas faite en un jour, et surtout, sauvegarder cette biodiversité à laquelle je crois beaucoup, et cette biodiversité va nous permettre de vivre mieux dans les siècles suivants.
Salut l'ami Michel Lys, qui était un formidable conteur. Hein. Si vous aviez encore quelques doutes, et ben voilà, c'était toujours un régal de l'entendre à la radio, puis même dans le privé. Quoi. Vous apprenez toujours des tas de choses. Merci donc à lui. Et on va poursuivre notre voyage, avec ces aliments qui nous empoisonnent. Tenez.
La biochimie moderne a donc permis de créer des tomates, des carottes et des maïs considérablement meilleur que les variétés existantes il y a 20 ans seulement.
Mais que pensez-vous alors de l'utilisation des engrais chimiques?
Tout récemment, un physiologiste allemand, le docteur Schupan, a pu déclarer que dans ses études directes faites sur l'alimentation des enfants, les légumes obtenus sur des terrains fertilisés par des engrais chimiques ont donné de meilleurs résultats que ceux cultivés avec des engrais naturels.
Ce qui est bien, c'est le troisième bras qui pousse sur l'estomac. Je peux me gratter les mamelles sans avoir à bouger les ailes. Ma femme hier matin m'a dit, mon gros martien, nous pouvons être heureux, je crois bien que je vais pondre des œufs. Tout ça, pourquoi? Parce que y a Dieu sans deux, y a Dieu sans trois dans le cœur des enfants. Y a Dieu sans deux, y a Dieu sans trois de la polette qui boit.
Denis Chessou sur France. France Inter.
Ah bah oui, un petit coup de charlot après donc cette archive de l'INA de 1956, voilà ce que l'on disait. Toujours dans votre magazine de nature et d'environnement. Alors parlons quand même maintenant de ces colorants et de ces additifs, deux choses un petit peu différentes. Mais que peut-on dire donc, Adeline Fréguier, parce que donc on a vu que l'industrie mettait beaucoup, beaucoup de sel, ne se gênait absolument pas, que le sucre était quand même gentiment une merveilleuse drogue qui permet après donc d'acheter encore des produits sucrés. Tout va bien, le cercle est bouclé. Et que peut-on dire maintenant aujourd'hui des additifs et des colorants? Donc parce que vous essayez de déminer bon ce qui les vraies peurs qu'il faut avoir, les fausses, mais vous avez raison de vous méfier des additifs alimentaires.
Et oui, effectivement, parce que les industriels souvent se défendent en disant que ces peurs sont irrationnelles. Or, dans ce hors-série donc de 60 millions de consommateurs, la journaliste donc Valérie De Villene a fait un remarquable travail d'enquête et elle met en lumière en fait le travail de chercheurs sur les additifs qui montrent qu'un certain nombre d'entre eux posent problème et notamment peuvent être à l'origine de maladies, de troubles intestinaux chroniques, de maladies très graves au niveau des intestins. Donc ce sont des additifs qu'on peut trouver notamment en fait dans des produits comme
ce
sont pas forcément des colorants, ce sont des émulsifiants, donc oui. On va trouver en fait qui vont donner une onctuosité à certains aliments, comme notamment les crèmes glacées, les mayonnaises, les vinaigrettes, les gâteaux, les desserts lactés. Et en fait, je repense à ce qu'on a entendu tout à l'heure, à ce témoignage de Michel Lys, et je me dis qu'effectivement, tous ces additifs sont à l'opposé de la nature, et qu'il n'y a aucune raison, je dirais, objective à ce que leur nombre ait été multiplié par deux en l'espace de 20 ans. Oui. C'est complètement invraisemblable, et ce ne répond pas, contrairement à ce que dit la législation, à un besoin dans l'intérêt du consommateur.
Non, c'est dans l'intérêt de l'agroalimentaire.
Tout à fait, c'est pour produire plus vite et moins cher.
Bah voilà, c'est ça. Elisabeth Borédon, je me tourne vers la chimiste, là aussi, peut-être sur les colorants, parce qu'on en a qui sont dits naturels et qui le sont, puis d'autres qui ne le sont pas.
Alors on va d'abord dire que les colorants, en fait, c'est peut-être parmi les additifs celui qui est le moins indispensable. Il ne fait que normaliser la couleur d'une alimentation, c'est-à-dire si on mange, mettons, une glace qui a un goût de fraise, on va attendre, on va s'attendre à avoir une couleur rose assez intense. Si c'est un goût de chocolat, il va falloir avoir un marron assez foncé, donc on va rajouter un colorant marron. Et si c'est, mettons, un goût de menthe, normalement l'arôme de la menthe donc n'a pas de couleur, est incolore, mais on va rajouter un colorant vert pour simuler. Donc c'est la couleur de la menthe. Donc en fait, effectivement, les colorants artificiels ou synthétiques sont arrivés qu'après la moitié du 19e siècle. Avant, on n'utilisait que des colorants naturels, donc le safran, le carmène de cochenille, là, qui est extrait d'une squelette de femelle d'insectes. Vous avez le caramel, qui est très connu, le curcuma, le rouge de betterave. Donc tous ces colorants existent toujours, mais on a rajouté des colorants de synthèse et des colorants artificiels. Alors, les colorants de synthèse sont souvent identiques aux colorants naturels, ils sont fabriqués par l'industrie chimique, et après les colorants artificiels, eux par contre, n'ont rien à voir avec les colorants, n'auront aucune correspondance avec les colorants naturels. Et on retrouve encore quand même dans les aliments, on retrouve ces colorants, alors avec un code bien particulier, donc tout d'abord ça commence toujours par E, la lettre E pour tous les additifs, et pour les colorants c'est E à partir de 100 jusqu'à 199, donc bon, il n'y a pas 99 colorants forcément autorisés, mais disons que si vous avez des colorants, vous avez E101, 102, etc. Et on a la couleur en fait qui va changer en fonction de la nature du colorant, et on va avoir donc des colorants jaune clair, orange, rouge, bleu, vert, tout, on peut retrouver toutes les couleurs. Et mettons pour le caramel qui est un des colorants, je veux dire, le plus naturel qui existe, il faut savoir qu'en chimie en fait on peut modifier sa structure et faire du caramel sulfite ammoniacal ou du caramel ammoniaqué qui va modifier un petit peu sa stabilité.
Alors Laurent,
sur l'indice, le code 150.
Laurent Chevalier, cher docteur, sur ces thèmes. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on va tous mourir à cause de ça et en fermant la revue. Hein, c'est pas ça du tout. Mais quand même sur ces additifs, sur ces colorants. Moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que globalement, là, je parle globalement, vous dites, on n'est pas aussi bien protégé que ça, quoi.
Bah, écoutez, nous médecins, on est extrêmement préoccupés. On a 45% des personnes. Pratiquement 50% des personnes en France qui ont des troubles ou maladies chroniques, c'est pas rien. On dit l'espérance de vie augmente, mais il faut voir que les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui n'ont pas été soumises à l'exposition à toutes ces substances. Et concernant les additifs alimentaires, Donc à la fois effectivement les colorants, les conservateurs, il y a aussi deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a un effet cocktail, c'est-à-dire qu'on connaît très mal ce qui se passe quand on associe des additifs entre eux en termes d'impact sur la santé, et d'autre part, on a de plus en plus d'additifs qui sont sous forme de nanoparticules. Et ça, c'est pas indiqué, ça devrait l'être.
Oui.
Et si vous trouvez aujourd'hui un produit industriel où c'est marqué présence de nanoparticules, vous me l'amenez, je serais très intéressé. Alors que normalement, ça devrait être indiqué. Donc, on a des agréments qui sont donnés pour certains additifs sous une forme, par exemple, minérale, qui n'aura pas forcément un grand impact. En revanche, sous une forme nanoparticulaire, c'est pas du tout la même chose. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Adeline, on a un nombre absolument insensé d'additifs, 350, dont on a pas du tout besoin. Et disons que moi, je milite, et puis ce numéro est remarquablement bien fait aussi, puisqu'on a des solutions. Les solutions, c'est se tourner quand même pour le consommateur vers du bio, puisqu'on limite l'exposition à un certain nombre de substances chimiques, et d'autre part, bien insister sur le fait de prendre des produits bruts, qu'ils soient frais ou surgelés. Vous limiterez ainsi l'exposition à un grand nombre de substances chimiques. Et ça, ça me paraît tout à fait fondamental. Nous sommes très préoccupés de l'explosion du nombre de diabètes, de l'explosion de la fertilité et de l'explosion d'un grand nombre de cancers, notamment chez les enfants.
Frédéric Danhé, peut-être sur ce thème aussi.
Je le rejoins tout à fait. Il y a un vrai souci. On ne connaît pas la synergie d'action de ces différentes molécules entre elles. Ces différentes molécules, le docteur Chevalier l'a dit, adorent le gras, elles adorent le beurre, elles adorent le poisson. Donc aussi, par exemple, le poisson est autorisé à la vente, mais franchement, il y a certains poissons qui, quand on est un jeune enfant, une femme enceinte ou une personne immunodéprimée, on ferait mieux de s'en priver. Par exemple, le saumon, le thon, l'espadon, ce sont des poissons. Alors, pour le saumon gras, le thon, l'espadon, par exemple, ou même le requin, c'est un poisson en fin de chaîne alimentaire et qui donc a passé sa vie à bouffer des animaux, qui ont passé leur vie à bouffer des animaux, qui, etc. Et de fil en aiguille, ils n'ont fait qu'accumuler.
Et pas que les surfeurs, hein, pour les
et pas que les surfeurs,
requins,
non, plein de choses. Et qui n'ont fait qu'accumuler. Enfin bref, dans ces poissons, vous retrouvez des traces à des taux parfois invraisemblables de polluants qui sont interdits, qui n'existent plus, qui ne sont plus fabriqués depuis 20 ans, notamment les PCB, oui. Également des pesticides qui sont interdits à la vente depuis 1970, plus des métaux lourds, notamment le mercure. On a l'habitude de dire que quand on fait une analyse d'eau, une analyse de sédiments, on voit tout le passé industriel d'un pays. Bah, quand on mange un poisson, on voit tout le passé industriel de notre pays. Donc, manger des filets, éviter les poissons directement cuits dans la poêle, ils sont moins gras.
Alors, donc, tout à l'heure, Michel Lys a parlé des pesticides. On l'a pas ouvert ce dossier parce que simplement, on l'a déjà fait, là, l'émission, puis on en a déjà fait d'autres et on reviendra dessus. Mais enfin, sur les pesticides, il y a aussi ce qu'il faut. C'est bien gratiné dans 60 millions de consommateurs. Grand merci à vous, Adeline Tréguier. Laurent Chevalier, avant que nous retrouvions devant un micro cet été, moins de médicaments, plus de plantes, le pouvoir de la nature à portée de touche suffit. Et le livre antitoxique au livre de poche. Très très vite, cher Frédéric Danhé, puisque nous aimons bien de temps en temps faire une petite séquence qui s'appelle l'idée à la con de la semaine.
Oui, celle-là, elle vous plaît. Voilà, vous savez, les agriculteurs savent à quel point il est très difficile de mesurer le carbone, tout dépend là où est le curseur. Eh bien, figurez-vous qu'un confrère d'automoto.fr, lui, ben, il a vu les choses très simplement. Il a calculé qu'un cycliste, donc vous, Denis,
oui,
parce que vous ne mangez que de la grosse barba qui vient que du Brésil, vous émettez... plus qu'une Ferrari.
Bien sûr.
Voilà.
Ah, c'est ça qu'ils ont fait un bilan carbone.
C'est
à
ça.
La...
Donc, rouler en voiture, vous émettrez moins de CO2 qu'à rouler en vélo. Enfin, vous, en ce qui vous concerne, Denis, c'est plus proche d'un escadron de Rafale.
C'est ça aussi.
C'est bien. Vous mangez que de la viande du Brésil.
Bien sûr.
C'est un bilan carbone. On lui fait dire n'importe quoi. Et là, c'est du n'importe quoi.
Voilà. Merci beaucoup donc pour cette merveilleuse.
Mais de rien. Ça m'a fait plaisir.
Mais bien sûr, ça soulage. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur, à Albert Houck, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Bouzon qui nourrit les sites de CO2. La semaine prochaine, entre autres, il y aura un sujet très intéressant sur l'encyclique du pape consacré au climat et à l'écologie.